semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 2 mai, c'est l'heure de notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité sur la planète. Merci de nous accueillir chez vous ou ailleurs. Merci de votre fidélité. En tout cas, une semaine d'actualité, une session d'information que vous pouvez aussi écouter sur le site de la radio, www.rfi.fr, en direct ou quand vous voulez. L'actualité internationale marquée notamment par l'apparition de la grippe porcine mexicaine, nord-américaine, baptisée désormais AH1N1 au Mexique et sa propagation dans bon nombre d'autres pays. Écoutez ce que nous disait dimanche Laurine Ortiz à l'aéroport de Los Angeles aux États-Unis.
Au terminal des vols en provenance du Mexique, de nombreux voyageurs portent un masque sur la bouche. Certains s'inquiètent de contracter le virus de la grippe porcine au contact de la foule. C'est le cas de Richard Hunda et de sa femme, californien d'origine mexicaine.
Il y a des gens qui meurent. Quelqu'un de notre famille au Mexique qui est médecin, elle a vu au moins une personne mourir. Alors on ne sait jamais, hein. Vous avez vu ma femme, elle s'inquiète.
Mais l'aéroport de Los Angeles, qui enregistre 45 vols quotidiens à destination ou en provenance du Mexique, n'a reçu aucune consigne des autorités. Globalement, l'ambiance est calme, raconte Lorena Zavala, une passagère qui vient d'ôter son masque.
Everything is okay. Tout se passe bien, les gens n'ont pas peur, tous les gens sont calmes et pas vraiment inquiets. Nous, on y retourne dans peut-être 2 ou 3 mois.
Non loin de là, lors d'un point presse, le gouverneur Arnold Schwarzenegger s'est voulu rassurant.
Les gens peuvent venir librement du Mexique aux États-Unis. Il n'y a aucune restriction de voyage, on n'en est pas encore là. On essaie simplement d'apporter l'aide nécessaire et de contenir ce qui se passe.
Il a aussi rappelé que le problème était national et que donc toute éventuelle restriction des voyages serait décidée à Washington.
Afin de suivre l'évolution de la situation avec par exemple le relèvement du niveau d'alerte en France, rendez-vous bien sûr dans nos journaux. RFI, merci de votre fidélité. Notre invité aujourd'hui, Franck Attard, spécialiste des relations internationales, auteur d'ailleurs d'un dictionnaire des relations internationales de 1945 à nos jours aux éditions du Seuil. Et tout à l'heure, à la fin de cette session, nous écouterons Bruno Fulini, auteur lui d'un autre dictionnaire en quelque sorte, son titre « La parlotte de Marianne, 1000 mots d'argot politique ». Un livre publié aux éditions Auray.
7 jours dans le monde.
Bonjour Franck Attard.
Bonjour.
Merci d'être venu en ce week-end de 1er mai. Aujourd'hui, samedi 2 mai, vous êtes un ancien élève de l'ENA, diplômé d'Harvard et de Cambridge, rien de moins. Vous enseignez à Sciences Po à Paris et aussi aux États-Unis. Alors, les États-Unis, on y retourne tout de suite pour parler cette fois de Barack Obama et du cap des 100 jours de la présidence Obama. Correspondance de Washington signée Donna Aigledu.
Il y a 100 jours, ils étaient 2 millions sur le Mall à Washington et des millions d'autres devant leur télévision pour assister à la prestation de serment de Barack Obama. Hello everybody. Hier, le président américain avait choisi de marquer le coup en petit comité. 2000 personnes assemblées dans le gymnase d'un lycée dans la banlieue de Saint-Louis. Des Américains ordinaires venus en jean ou en survêtement et un président ravi de renouer avec la simplicité et le contact direct avec les gens. C'est bon de sortir de Washington, dit-il. C'est bon d'être ici dans le Midwest avec des gens qui ont les pieds sur terre. Une heure durant, il se prête au jeu des questions devant une foule qui boit ses paroles. Et dans le public, il y a Tim, en tenue de travail. C'est lui qui a lavé les parquets juste avant l'arrivée du président. Tim n'a pas voté pour Barack Obama, mais là, il est complètement retourné et séduit. Il m'a surpris. Il nous a donné plein d'informations. Il est intelligent et puis il a l'air d'être très terre-à-terre. Ça, c'est vraiment bien. Barack Obama a peut-être gagné un électeur, mais ça, on verra dans quelques centaines de jours. En attendant, il a du pain sur la planche.
Et puisque nous parlons des États-Unis, rappelons le dépôt de bilan de Chrysler jeudi, et un nouveau départ avec Fiat, le constructeur italien. Sachez aussi que selon les services de renseignement américains, le nombre des attentats terroristes a baissé dans le monde l'année dernière, ainsi que le nombre de leurs victimes, un peu plus de 15 000 en 2008 contre plus de 22 000 en 2007. Une semaine d'actualité donc en compagnie de Franck Attard pour un dictionnaire des relations internationales de 1945 à nos jours, qui s'impose déjà comme un instrument de référence. C'est un nouveau regard sur le monde d'aujourd'hui, avec évidemment une notice Obama, c'est à la page 692 exactement, et vous écrivez, Franck Attard, « Barack Obama semble avoir réussi à donner un nouveau visage à son pays ». On vous sent prudent. Ça contraste avec l'Obamania.
Vous savez, au moment où j'écris, Barack Obama vient d'être élu président des États-Unis, donc les pronostics doivent être par nature réservés. Si on prend le domaine que je suis avec un intérêt particulier, qui est celui de la politique étrangère, vous aurez vu que dans la notice concernant Obama, j'indique, comme tout le monde pouvait le voir à l'époque, que Barack Obama avait un programme en matière de politique étrangère extrêmement ambitieux. Alors évidemment, on ne va pas en recenser ici tous les détails, mais si on ne retient que trois points pour essayer de cadrer avec cet exercice convenu qui est celui du bilan des 100 jours, avec tout ce qu'il peut avoir de réducteur dans un domaine comme celui des relations internationales où par nature l'évaluation est une évaluation qui se fait sur le long terme. Mais prenons les trois points majeurs. Le premier, c'est essayer de donner une nouvelle image à l'Amérique, c'est-à-dire la débarrasser de cette enveloppe du bushisme entre guillemets. La deuxième, c'est d'essayer de privilégier le dialogue par rapport à l'unilatéralisme. Et la troisième, c'est essayer de se défaire d'un certain nombre d'engagements, en particulier d'engagements militaires, dans lesquels les États-Unis tendaient à s'embourber. Mmh. Alors si on prend ces trois points, les uns après les autres, on voit qu'en termes d'image, Barack Obama a réussi a priori un exercice tout à fait remarquable, enfin une performance tout à fait remarquable, puisque l'image de l'Amérique, en tout cas pour ce que peuvent nous en véhiculer les sondages, est une image qui change, est une image qui bouge. Et l'Amérique se met de surcroît en adéquation avec un certain nombre de valeurs qui ont toujours été les valeurs qu'elle a préconisées dans la conduite de sa politique étrangère, comme le respect des droits de l'homme. On a vu ce qu'a fait Barack Obama en annonçant la fermeture de Guantanamo. On a vu ce qu'il a fait avec la publication du livret de la CIA concernant les mauvais traitements infligés aux prisonniers suspectés d'activités terroristes. Alors, on voit aussi que sur les autres plans, les choses s'amorcent. En ce qui concerne le dialogue, Barack Obama tend la main à ceux qui étaient hier les ennemis, ou en tout cas supposés des États-Unis, la Syrie, l'Iran, Cuba, le Venezuela. Donc là aussi, les choses bougent. Et en termes de désengagement des bourbiers, Barack Obama dit clairement que d'ici la fin de l'année 2010, le gros des troupes américaines seront retirées d'Irak. Maintenant, il y aura un repositionnement en Afghanistan, et ça, on ne peut pas préjuger de ce que ça donnera dans le futur.
Alors, en plus, dans un contexte particulièrement difficile, un contexte de récession, de vraie récession.
Un contexte de récession, bien sûr. Alors, bon, je vous dis, moi, je ne regarde que l'aspect qui est l'aspect conduite de la politique étrangère des États-Unis, mais évidemment, on pourrait aussi s'interroger sur les mesures qui sont prises au niveau interne. Est-ce que l'exercice de relance auquel se livre aujourd'hui l'administration Obama, le programme néo-keynésien qu'il tente de mettre en application avec des montants qui nous semblent des montants colossaux lorsqu'on les analyse et lorsqu'on les voit de l'extérieur, est-ce que ça suffira à faire repartir l'économie américaine? Ça, moi, je ne suis pas un devin ni un spécialiste de la question.
Suite d'une semaine d'actualité, Franck Attard, avec deux conflits cette fois. Au Sri Lanka d'abord, et avec la suite de l'offensive de l'armée contre les séparatistes tamouls. Correspondance lundi, par exemple, de Mohsin Enaimi.
Contacté par téléphone dans la zone des combats, Puli Devan, porte-parole des rebelles séparatistes tamouls, dément le fait que l'armée sri-lankaise ait arrêté les bombardements.
Les forces sri-lankaises utilisent leur aviation pour attaquer des civils dans la région de Mulivakkal, dans la zone de sécurité. Ils utilisent l'artillerie et des mortiers dans des régions densément peuplées de civils. Quoi qu'ils disent, c'est uniquement pour faire plaisir à la communauté internationale et ils n'honorent pas les promesses qu'ils ont faites à cette même communauté internationale.
Selon le porte-parole des Tigres Tamouls, le leader Prapakaran est toujours au Sri Lanka aux commandes des opérations militaires de la guérilla et toujours, selon les LTTE, il y aurait aussi plus de 165 000 civils coincés dans ce dernier carré de terrain dans des conditions épouvantables.
C'est vraiment consternant, les gens n'ont pas de nourriture, pas d'eau, ils sont entassés dans des endroits minuscules et ils sont traumatisés. Le gouvernement du Sri Lanka empêche la nourriture et les médicaments d'arriver, les autorités utilisent le manque de nourriture comme une arme, ce sont des conditions épouvantables.
Les Tigres tamouls disent vouloir continuer leur lutte jusqu'au dernier souffle et refusent toute capitulation face à l'armée sri-lankaise.
Un autre conflit maintenant au Pakistan où l'armée est passée à l'offensive dimanche dernier contre les islamistes qui s'étaient approchés la semaine dernière de la capitale, Islamabad. Correspondance de Nadia Blétri, lundi.
Les affrontements ont eu lieu dans le sud de Dire, l'un des 7 districts de Malakand, autrement dit la région dans laquelle le gouvernement a accordé aux militants l'instauration de la charia en échange de la paix dans la vallée de Swat. Ces derniers mois, les talibans ont renforcé leur présence dans le sud de Dire, où la situation se dégrade, d'autant que samedi, 12 enfants y sont morts en trouvant une bombe. Malgré la nouvelle opération militaire de dimanche, le gouvernement a fait savoir que l'accord de paix signé par le chef de l'État il y a 15 jours n'était pas caduc et qu'il veillerait à ce que la loi islamique soit mise en place dans le district. Mais la situation reste très fragile. Après la signature de cet accord, des centaines de talibans armés ont occupé pendant plusieurs jours le district de Bunner, une vallée voisine de celle de Swat, située à 100 km de la capitale pakistanaise. Les talibans locaux continuent donc leur progression dans le nord-ouest du pays. Et si le gouvernement a affirmé que l'alliance passée avec les insurgés n'était pas rompue, il a également précisé qu'il ne permettrait pas aux militants de mettre en péril la loi et l'ordre.
Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Franck Attard, expert en relations internationales, auteur d'un dictionnaire des relations internationales de 1945 à nos jours aux éditions du Seuil. Alors deux conflits très sensibles. D'abord le Sri Lanka, Franck Attard, loin d'ailleurs du regard des journalistes.
Très loin du regard des journalistes, très loin du regard de l'opinion publique aujourd'hui, et ce qui explique alors l'attitude pusillanime du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui se refuse à inscrire la question à l'ordre du jour.
Il s'est contenté la semaine dernière d'une vague déclaration non officielle votée dans les sous-sols.
Exactement, c'est ainsi en tout cas que ça a été rapporté par la presse, encore que ces salles, les sous-sols, soient des salles où le Conseil se réunisse de manière tout à fait légitime, mais effectivement le Conseil ne veut pas prendre parti en l'espèce et se contente de donner des conseils très généraux aux protagonistes. Alors d'un côté demandant au gouvernement de Colombo de faire preuve de retenue dans la manière dont il entend éradiquer les restes du mouvement séparatiste tamoul, et d'un autre côté en demandant aux séparatistes du LTTE de ne pas se servir des populations civiles comme bouclier humain. Voilà. À part ça, pas de demande de pause humanitaire, puisque la Chine et la Russie en particulier, mais soutenus par des membres non permanents du Conseil, ils sont fermement opposés.
Alors il y a eu une tentative cette semaine avec Bernard Kouchner, mais elle a fait long feu, cette tentative de création d'un corridor.
Oui, mais le principe de l'aide humanitaire, en dépit de ce que peuvent affirmer certains juristes internationaux qui brandissent aujourd'hui un droit d'ingérence ou une responsabilité de protéger, lorsqu'il s'agit d'imposer une aide humanitaire dans un pays qui a encore des structures étatiques fortes, qui a une armée qui peut s'opposer à une intervention d'éventuels intervenants extérieurs, c'est une opération qui est proprement impossible. Il faut respecter le souhait du souverain territorial, c'est-à-dire ici de Sri Lanka.
Alors je précise qu'il y a des entrées dans votre dictionnaire, c'est ce qui en fait l'originalité sur le terrorisme, sur l'action humanitaire, sur l'ingérence, sur tous ces aspects qui font aussi les relations internationales d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Alors le Pakistan.
Alors, le Pakistan, c'est une autre question. Je crois qu'il y a deux ou trois points qu'on peut retenir sur le Pakistan. Le premier, c'est déjà la crédibilité de l'interlocuteur taliban, qui en février 2009 signe un accord avec le gouvernement pakistanais, où il promet, d'une manière assez souple, assez floue, de restreindre ce qui est un mouvement expansionniste taliban dans le nord et dans le nord-ouest du Pakistan, en échange de certaines concessions du gouvernement central, c'est-à-dire essentiellement l'application de la charia. Bon. Le problème est que, pour les talibans, cette concession du gouvernement n'est pas perçue comme un acte de magnanimité, mais elle est perçue comme un acte de faiblesse. Et donc, il y a quelques jours, comme votre reportage l'a bien montré, les talibans passent à l'offensive armée. Là, deuxième point, ça révèle l'état préoccupant du pouvoir central pakistanais, qui n'est pas en mesure d'imposer son administration ou ces éléments de maintien de l'ordre public dans certaines parties de son territoire. D'où, troisième point, l'intervention des États-Unis, qui force le gouvernement Zardari à réagir. Et donc c'est ce qui se produit il y a deux jours lorsque des parachutistes pakistanais reprennent Dogar, qui est le chef-lieu du district de Bunair. Alors ça augure d'une intervention américaine sans doute beaucoup plus appuyée aux côtés du Pakistan. Vous savez qu'il va y avoir une réunion entre Obama, entre Hamid Karzai et entre le président pakistanais dans quelques jours. Et il va y avoir sans doute un appui beaucoup plus ferme des États-Unis au Pakistan.
Alors allons au Liban maintenant pour conclure ce premier volet d'une semaine d'actualité. Franck Attard, mercredi, le tribunal spécial pour le Liban de La Haye a ordonné la libération de 4 généraux libanais détenus depuis 2005 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ex-premier ministre Rafik Hariri et de 22 autres personnes dans un attentat. Ces généraux sont considérés comme pro-syriens. Beyrouth, Diane Gallio.
Leur libération a été accueillie par des scènes de liesse dans certaines des rues de Beyrouth, notamment dans les quartiers chiites, et par des tirs de joie. Le tribunal de La Haye a demandé leur libération. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice libanais ont immédiatement obtempéré. Nous avons du respect pour le tribunal international, a précisé le ministre de la Justice. Nous avons voulu cette juridiction internationale pour juger les crimes qui ont été commis. Ce n'est pas nous qui refuserons d'exécuter ces sentences. Saad Hariri, le chef de la majorité et le fils de l'ancien premier ministre assassiné, a salué la décision du tribunal de La Haye, estimant que tout cela prouve que le tribunal n'agit pas sous des pressions politiques, qu'il fait son travail et qu'il révélera la vérité. Quant aux généraux, ils ont remercié le tribunal international, estimant que leur libération est enfin justice. Le général Jamil Sayed estime que ceux qui l'ont emprisonné ne veulent pas la vérité, que certains de ceux qui entourent Saad Hariri ne veulent pas la vérité, mais il a tenu à rappeler en sortant de sa prison que c'est la mort de Rafik Hariri qui a permis le départ des Syriens du Liban.
Ah, une semaine d'actualité, alors autre étape pour conclure cette première partie, donc le Liban.
Alors le Liban, la décision du tribunal spécial pour le Liban, d'abord, n'est qu'une décision de procédure. C'est-à-dire que le procureur et ce que l'on pourrait appeler le juge d'application des peines, enfin ce qui s'appelle en anglais le pre-trial judge, prend une décision qui est qu'au vu des pièces qui sont à sa disposition à un moment donné, étant donné que dans le code de procédure de ce tribunal, on ne peut pas détenir à titre préventif des individus plus de 90 jours, eh bien il ne peut pas, il n'a pas d'éléments suffisants pour détenir les 4 généraux. Ça ne signifie ni qu'ils sont exonérés, ni qu'ils soient coupables. Ça signifie simplement qu'à un stade ultérieur de la procédure, ils pourront éventuellement être à nouveau accusés par le tribunal spécial. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors moi, ce qui pose surtout problème aujourd'hui, c'est quel va être l'impact de cette décision au niveau de la politique interne libanaise. Parce que, comme vous le savez, des élections législatives vont se tenir au Liban au mois de juin. Et je ne sais trop quelle récupération va être faite de l'événement, en particulier par le bloc aujourd'hui que certains sondages donnent comme potentiellement vainqueur des futures élections, qui est celui qui est le bloc pro-syrien qui se constitue autour du Hezbollah.
Donc une situation politique plus qu'instable au Liban.
Comme depuis de nombreuses années. Je veux dire, là, on n'a pas d'éléments véritablement nouveaux.
Merci Franck Attard. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre session après le flash. Donc, à tout de suite. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play. Tonight.